Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors je voudrais que vous regardiez votre voisin de gauche et que vous lui dites bonsoir, excellence. C'est la manière dont les ambassadeurs se saluent dans mon pays. Je suis là ce soir, pas pour vous parler de moi, mais pour vous parler au nom du chef de mon gouvernement qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen.
Amen.
Alors maintenant, tournez-vous vers l'autre voisin, puisque celui-là, il n'a pas assez souri. Tournez-vous vers l'autre voisin et dites-lui, voisin, si tu savais qui je suis, tu me donnerais ce soir 100 000 euros. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Parce que la raison pour laquelle je coûte beaucoup plus cher qu'hier, hier j'ai dit 10 000, la raison pour laquelle j'ai multiplié par 10, c'est parce que entre hier et aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans ma vie. Entre hier et aujourd'hui, j'ai appris une information nouvelle et l'information produit la transformation. Que quelqu'un dise Amen.
Amen.
Donc je ne vaux plus ce que j'étais hier. Ma valeur a augmenté. Amen.
Amen.
Alléluia. Glory be to God. J'ai commencé à parler hier du royaume de Dieu. Vous savez, je vous avoue très franchement que ce matin, pendant que je priais, parce qu'il y a, un enseignement que je ne peux pas donner, parce que demain je finirai, demain je suis censé finir, mais il y a un enseignement que je ne peux pas donner, parce que d'ici demain je n'aurai jamais le temps de l'aborder. Et ce matin, pendant que je me suis levé, le Seigneur me dit, tu dois délivrer. En fait, c'est le bouquet final sur le règne de Dieu. C'est là, il me dit, tu dois le délivrer. Et le problème, c'est que j'ai déjà pris des engagements pour la semaine prochaine. J'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, tu dois délivrer ce message jusqu'à la fin. J'ai dit, bon, Seigneur, je vais parler avec tes serviteurs, et puis après, on verra. Amen. Qui est venu hier? Alléluia, glory be to God. Alors, je prie vraiment qu'aujourd'hui, Dieu nous inspire. Alors, on m'a demandé deux choses. On m'a demandé, un, de parler moins vite. Ah là là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup trop à dire. On m'a demandé de parler moins vite et on m'a demandé de faire un résumé de ce que j'ai dit hier. Malheureusement, je ne peux pas faire un résumé. Vous savez, quand je prends la parole comme ça, je dis ce que le Saint-Esprit me met à cœur de dire. Je ne prévois pas de dire, je vais faire un résumé de tant de minutes. Je me laisse conduire par l'Esprit. Amen. Ceci dit, la prière de mon cœur ce soir, c'est que Seigneur, sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur les Antilles, que ton règne vienne. Que quelqu'un dise que ton règne vienne. Voyez-vous, là où Dieu règne, la paix règne. Là où Dieu règne, la joie est restaurée. Là où Dieu règne, l'amour est restauré. Là où Dieu règne, les corps sont vivifiés. Je n'ai pas dit que là où Dieu règne, toutes les maladies sont guéries. Parce que je sais très bien que souvent on prie, on n'est pas forcément guéri. Mais même si je ne suis pas guéri dans mon corps est néanmoins vivifié. Parce que je reçois la vie de Dieu. Et Dieu dit, ma grâce te suffit et elle te rend capable de faire ce que je te demande de faire. Que quelqu'un dise Amen. Là où Dieu règne, les démons sont chassés. Les oppressions cessent. Parce que ce n'est plus le temps de l'oppression, c'est le temps de la possession. Ce n'est plus le temps des dénominations. Nous sommes fatigués des dénominations. Moi, je dis, Seigneur, je prie maintenant pour que ta domination s'établisse sur le pays. Là où Dieu règne, les mentalités sont challengées, renouvelées. Là où Dieu règne, les potentiels sont libérés. Et là où Dieu règne, les chrétiens ne s'empressent plus de vouloir partir au ciel en première classe. Ils s'empressent de faire venir sur la terre le règne de Dieu au travers de leur vie. Là où Dieu règne, la confiance est. Là où Dieu règne, on n'a pas peur de l'autre. On n'a pas peur de la réussite de l'autre. Au contraire, on veut encourager la réussite de l'autre parce qu'on comprend que si tu montes, alors moi aussi je monte parce que nous sommes un corps. Là où Dieu règne, pensons, que demande le peuple? Les nations aspirent à vivre le règne de Dieu. Tout le monde aspire à vivre d'abord à l'intérieur de soi. Je dis d'abord à l'intérieur de soi. Un règne de paix, d'amour, de bonheur, de justice. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Vous le savez déjà, mais le bonheur ne dépend jamais des circonstances. Le bonheur est une attitude. Le plaisir est une émotion. Vous pouvez tout de suite être, avoir un plaisir et puis la seconde d'après avoir la gueule de bois. Par contre, le bonheur, c'est un choix. Que quelqu'un dise amen. Je suis heureux parce que j'ai décidé qu'avec Christ, je suis heureux. J'aime ma femme parce que j'aime... Ah, je ne vais pas parler de ma femme. Miss Univers éternel. Elle a remporté les élections Miss Monde 2005, 2006, 2007, jusqu'à l'an 3000, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus revienne. Comme je dis souvent aux hommes, vous savez, il y a femme et femme. Il y a les photocopies et puis il y a l'original. Le jour où vous allez la voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Non, mais je ne parle pas de toi, ma soeur, je parle de ta voisine. Vous comprenez? Il y a femme et femme, alléluia, glory be to God. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup enseigner dans les relations humaines, dans les relations hommes-femmes, c'est parce que je vis un paradis quotidien depuis plus de 7 ans que je suis marié. Jamais de crise, jamais de palabre, jamais... Non. Moi, je vis le paradis. Parce que j'ai compris qu'on n'échoue pas et on ne réussit pas par hasard. Et j'espère, si Dieu m'en donne l'occasion, vous en parler. J'espère. Alléluia! Alors, je vous ai dit hier nous avons parlé, nous avons simplement fait l'introduction. Nous avons parlé du royaume de Dieu. Je vous ai dit que le royaume de Dieu, c'est l'espérance de tous les peuples. Les gens aspirent au royaume de Dieu. Certaines personnes ne savent même pas ce qu'elles cherchent. Certaines ne savent même pas ce qu'ils désirent. Ils ne savent pas mettre un mot derrière. Mais en réalité, lorsque vous voyez une personne en quête de spiritualité, c'est qu'en fait, elle a simplement soif de revenir en Éden. Éden qui est l'environnement de la présence de Dieu. Éden n'a jamais été trouvé pour la simple raison que Éden, ce n'était pas un lieu géographique. Éden, c'était la présence de Dieu descendue dans un endroit précis. Et qui a fait toute la différence. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui sont pressés de partir au ciel, au paradis. Mais ils ne se rendent pas compte que le paradis commence sur la terre. Lorsque vous vous reconnectez à Dieu par la nouvelle naissance. Lorsque je me reconnecte à Dieu, alors je reviens en Éden, donc je reviens dans le paradis. Le paradis, ce n'est pas au ciel. Ça commence maintenant et ça continue au ciel. Que quelqu'un dise amen. Ce qui fait du paradis, le paradis, ce ne sont pas les rues en or. Ce n'est pas le marbre, comme on l'a souvent chanté. Ah oui, là-bas, on va marcher dans les rues, oh non. Ce n'est pas ça qui fait du paradis, le paradis. Ce qui fait du paradis, le paradis, c'est l'environnement de la présence de Dieu qui remplit tout. Ça veut dire que si Dieu te sature, maintenant, tu vis le paradis sur terre. Et si tu vis le paradis, vous savez pourquoi la plupart des gens veulent aller au ciel? C'est parce qu'ils vivent l'enfer sur terre. C'est pour ça qu'ils veulent partir. Et ils pensent qu'en partant, ça va aller mieux. Non, mon frère, ça commence maintenant. Que quelqu'un dise amen. Et je me suis rendu compte, je ne vous l'ai pas dit hier, la raison pour laquelle nous avons du mal à comprendre le concept du royaume de Dieu, c'est parce qu'aujourd'hui nous vivons sous une république. Mais vous savez que lorsque la Bible a été écrite il y a 2000 ans, le concept de république n'existait pas. C'était le concept de royaume ou encore d'empire. Que quelqu'un dise amen. Alors quelle est la différence entre une république et un royaume? Dans une république, on vote le président et on vote le premier ministre. Dans un royaume, on ne vote pas pour établir le roi. Le roi est roi et ça va de génération en génération. Dans une république, tout le monde a le droit de vote. Dans un royaume, je ne parle pas du royaume de Grande-Bretagne aujourd'hui, je parle dans un royaume au sens biblique du terme. On n'a pas le droit de vote. Dans une république, vous pouvez changer la loi. Dans une république, vous pouvez changer la loi. Dans un royaume, vous ne pouvez pas changer la loi. Dans une république, le peuple établit la loi. Dans un royaume, le roi établit la loi. Dans une république, vous pouvez changer le leader si vous n'êtes pas content. Dans un royaume, c'est vous qui devez changer si vous n'êtes pas content. Dans une république, le pouvoir appartient au peuple. Dans un royaume, le pouvoir appartient à sa majesté. Dans une république, vous pouvez introduire vos propres idées et en faire des lois. Dans un royaume, seules les idées du roi deviennent des lois. Alors vous comprendrez qu'effectivement, le royaume de Dieu n'est pas du tout démocratique. Que quelqu'un dise amen. Et j'aime ça. Parce que quand vous laissez aux hommes le choix de faire tout ce qu'ils veulent, ils vous inventent et légalisent tout et n'importe quoi au nom de la liberté. Alors ce qui est contre nature, on dit c'est naturel et c'est normal. Ce qui est abomination devant Dieu, on dit que ça devient un critère de normalité. Alléluia. Alors je vous disais hier, pour récapituler ce que je disais, c'est que la volonté originelle de Dieu, telle qu'elle est formulée dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, ça n'a jamais été d'établir une religion qu'on appelle le christianisme sur la terre. Il y a assez de religions sur la terre, elles ont fait assez de dégâts comme ça. La plupart des guerres proviennent de la religion. Le savez-vous? La volonté de Dieu, ce n'était pas d'établir une religion, c'était d'établir une influence, un royaume sur la terre. Dieu est un Père d'amour et de grâce. Et la Bible dit que nous étions en lui avant la fondation du monde. Et Dieu a voulu créer un être humain qui lui ressemble, qui soit son image et sa ressemblance. Afin et il a déposé sur un autre territoire qui s'appelle la terre. Et il lui a dit, fais en sorte que la terre, je te confie là, hein, comme un peu un père qui a une grande entreprise et qui veut confier l'héritage à son fils. Il dit, allez, je te mets là, tu diriges toutes les affaires de la terre. Et fais exactement que la terre soit le reflet du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fais en sorte que la terre resplendisse exactement comme au ciel. Que le langage parlé sur la terre soit le langage que l'on parle au ciel, le langage de l'amour. Que quelqu'un dise amen. Et ce qui m'interpelle souvent lorsque je lis la Bible, c'est que vous remarquerez dans Genèse, il est écrit qu'au commencement, donc lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé le règne minéral, végétal, animal, le règne humain. Vous verrez que au commencement, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas d'apôtre, il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y avait pas de bishop, de trichop, de quatrichop, de pape, tout ça. Mais la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Oh. Comment donc? Il n'y avait pas besoin de tout ça. Au commencement, l'intention de Dieu, c'était d'avoir sur la terre des enfants qui sont remplis complètement de son esprit. Pas des chrétiens, mais des fils de Dieu. Lorsque je parle de fils de Dieu, je ne parle pas de genre, c'est-à-dire je ne parle pas de sexe. Parce que vous comprenez, souvent lorsque Dieu dit, il dit dans Ézéchiel 22, il dit, je cherche un homme qui se lève, qui se tient dans la brèche. Il ne parle pas du genre. Quand je dis, il ne parle pas de mâle ou de femelle. Il parle d'un esprit qui est créé à son image. Que quelqu'un dise amen. Et la volonté de Dieu, c'était que ses fils, donc le mot fils, c'est traduit littéralement par les descendants, ceux qui sont sortis de lui. Que la terre soit remplie d'hommes et de femmes qui reflètent exactement ce que leur père est. Qui expriment et qui manifestent l'amour, la joie, la paix, l'intégrité, la sainteté, l'excellence, la diligence, la puissance, la confiance. Tout ce qui se trouve en Dieu puisse se trouver en l'être humain. C'était le chef-d'œuvre de sa création. Que quelqu'un dise amen. Et il a créé un premier modèle d'homme qui s'appelait Adam. Et Adam a échoué. Adam, c'était le premier homme. Parce que vous voyez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit que l'Éternel, bon, je vous le lis, bon, bref. Dieu fit l'homme à son image. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je vous ai dit hier que faisons l'homme à notre image, c'est littéralement faisant l'humanité à notre image. Et Dieu a créé l'humanité. Et il a mis dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est le mot hébreu yatsar. Yatsar, ça veut dire créer à partir de quelque chose. L'espèce humaine qu'il a créée en Genèse 1, verset 26, l'espèce humaine, il a mis toute l'espèce humaine dans un seul corps. Et à ce corps, il a donné le nom de Adam aussi. Et tout ce que Dieu disait à Adam, Dieu le disait à l'humanité. Parce que Adam veut aussi dire humanité. C'est pour ça que le jour où Adam tombe, tu es tombé, je suis tombé. Pourquoi? Parce que nous étions tous en lui. Est-ce que c'est clair? Mais la Bible dit que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, avait été immolé avant la fondation du monde. Dieu savait que Adam allait chuter. Il avait déjà préparé la solution. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. C'est pour ça que lorsque vous et moi nous stressons, Dieu ne stresse jamais. Dieu n'est jamais pris de coup. Que quelqu'un dise amen. Mais le modèle parfait de l'être humain que Dieu avait en tête lorsqu'il créait l'être humain à son image, la Bible dit que c'est Christ, le dernier Adam, pas le deuxième, le dernier. Parce que si vous dites le deuxième, c'est comme si on avait un troisième. Dans 1 Corinthiens 15, 45, il est écrit qu'il est le dernier Adam, le modèle parfait de ce que l'homme aurait dû être. parfaitement manifestant la sainteté, le caractère et la puissance de Dieu. Il n'a jamais manqué de rien. Il n'a jamais connu de péché. L'homme parfait. C'est ça que Dieu avait en tête lorsqu'il a créé l'être humain. Que quelqu'un dise amen. Et c'est à cela qu'il veut nous faire ressembler. Et sa volonté, c'est que la terre soit remplie pas de chrétiens, mais d'hommes et de femmes qui sont exactement ses fils comme lui. Il règne, alors je règne. Il est puissant, alors je suis puissant. Il est amour, alors il dit, sois amour. Arrêtez de prier pour dire, Seigneur, donne-moi l'amour. Ce n'est pas une prière biblique, c'est Seigneur, manifeste l'amour. L'amour est déjà là. Pourquoi? Parce que quand Dieu m'a créé, il a mis toutes les semences en moi. Il a dit, porte du fruit. S'il dit, porte le fruit, ça veut dire, j'ai mis en toi toutes les semences. Tu n'as aucune excuse. Que quelqu'un dise amen. Et tout ce que Jésus a fait sur la terre, lisez bien la Bible, il a fait en tant que fils de l'homme. Tous les miracles qu'il a fait, il les a accomplis en tant que fils de l'homme. Fils de l'homme, ça veut dire être humain. Il a parlé de lui en tant que fils de Dieu seulement lorsqu'il parlait de monter au ciel. Mais tous les miracles, dit le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme, ça veut dire quoi? L'être humain. Il était de nature humaine. Tout ce qu'il a fait, je dois le faire. Tu dois le faire. Tout ce qu'il est, je dois l'être. Que quelqu'un dise amen. Mais alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Dieu dit qu'au commencement, cela était bon. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes? Lisez Ephésiens chapitre 4, partie de verset 11. Il les a donnés pour que les saints arrivent à la perfection. Il les a donnés pour reprogrammer la mentalité de son peuple. Parce que Dieu sait que 6000 années d'esclavage à Satan, ça fait des dégâts. Quand vous avez été habitué à être un esclave, le jour où on vous enlève les chaînes, Alléluia! Dieu dit, exemple 19, vous êtes maintenant un sacerdoce royal, vous êtes des rois, vous êtes des sacrificateurs, et Israël chantait dans le désert. Alléluia, alléluia. Mais n'y comprenez rien. On a fait une expérience une fois avec une puce. Les scientifiques qui ont fait une expérience une fois, ils ont mis une puce. Vous savez ce que c'est qu'une puce, non? Les petites bestioles, là. Il y a des choses, je ne sais pas pourquoi ça existe, mais bon. Ils ont mis une puce dans un verre. Et puis, la puce sautait. Et puis, à chaque fois qu'elle sautait, elle sortait du verre. Est-ce que vous me suivez? Elle faisait des bonds. Elle faisait des bonds. Et puis, à chaque fois, elle sortait. Elle sortait. Puis, à chaque fois, on la remet dans le verre. Et puis, à un moment donné, ils ont mis un couvercle sur le verre. Donc, dites à votre voisin, suis-le. Dites à votre voisin, suis-le. Ok. Ils ont mis un couvercle sur le verre. Et ce qui s'est passé, c'est que la puce a commencé à sauter. Et puis, dès qu'elle saute, elle touche le toit, le couvercle. Et tout de suite, elle redescend. Elle ressort, pouf! Elle touche le couvercle, elle redescend. Elle ressort, pouf! Elle touche le couvercle, elle redescend. À un moment donné, ils ont levé le couvercle. Ils ont remis la puce. Et la puce a recommencé à sauter. Et figurez-vous que la puce s'arrêtait juste au niveau du couvercle. Il n'y avait plus le couvercle. Elle s'arrêtait juste au-dessus, juste au niveau du couvercle. Pourquoi, à votre avis? Ce que je vous dis, c'est une expérience de laboratoire. La mentalité a besoin d'être reprogrammée. 6000 années d'esclavage à Satan, ça fait des dégâts. Mais alors, nous les Noirs, c'est encore pire. Parce que nous avons vécu la traite, l'esclavage. Et en plus de ça, dans certains pays, encore, il y a la colonisation qui est venue. Et à chaque fois, moi j'aime beaucoup, vous savez, dans mon livre là que j'ai écrit là maintenant, ça suit, il faut que ça change. J'explique un peu comment est-ce qu'on a façonné notre mentalité. Parce que vous savez, vous arrivez et puis vous dites, vous êtes un missionnaire. Le missionnaire blanc, il arrive et puis il présente le Jésus qui est le blond aux yeux bleus. Sachant que vous savez, à cette époque-là, le peuple juif était un peuple sémitique. Donc il ne pouvait pas y avoir de blond aux yeux bleus dans le peuple juif. C'était impossible. Et quand vous lisez Louis II vous dit que David était blond. C'est faux. Lisez d'autres versions. Il était roux. Moi, c'est pour ça que j'aime avoir plusieurs versions de Bible. Que quelqu'un dise amen. Alors, on vous dit, voilà Dieu. C'est lui, le Jésus. Accepte ce Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et puis, sur la croix, il voit un blond aux yeux bleus. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'imagination de l'homme? Il fait automatiquement le rapprochement entre le Dieu dont on lui parle et la statue qu'il voit. Donc il se dit, ah, Dieu est blond alors. Et lorsque la même personne vient lui dire, à partir d'aujourd'hui, sache une chose, c'est que tu n'es pas capable de faire ça. Nous, on est capable de le faire. On va t'aider parce que tu n'es pas assez compétent, tu es trop bête. On va t'aider. Et figurez-vous qu'il va le croire. Parce qu'il croit en Dieu. On lui a dit que tout ce que Dieu dit, c'est bon. Et il associe Dieu à l'homme de couleur blanche. Vous savez, ça fait des dégâts à l'intérieur. Et il y a une chose qui m'a souvent épaté. Plus j'étudie la profondeur de la Bible, notamment en hébreu, et je me suis rendu compte un jour, on m'a souvent dit que... On m'a dit, vous savez, le mot Adam a plusieurs significations. Hein? Adam a plusieurs significations. Et certains vous diront, Adam veut dire terre rouge. Terre rouge. Moi, j'ai écouté d'autres théologiens qui m'ont dit, Adam veut dire terre noire. Mais enfin, qu'importe, rouge ou noir, c'est pas ça qui est important. Ce qui est vrai, c'est que la peau de l'homme a été formée de la poussière de la terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Tous les êtres humains sont sortis du même, c'est de Adam. Alors, quelqu'un a posé la question une fois, mais pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui sont noirs, rouges, jaunes, bleus, enfin non, pas bleus, pourquoi il y a des hommes de toutes les couleurs? Mais vous remarquerez que le corps de l'homme, à l'intérieur, c'est toujours le même sang, rouge. Quelque chose de la couleur, de pourquoi on ouvre, à moins qu'il ne soit pas un être humain, mais sinon, normalement, c'est rouge. Vous comprenez? Que quelqu'un dise Amen. Et alors, on a demandé, mais pourquoi est-ce que les hommes sont de couleurs différentes? Et il y a un théologien sage que j'ai entendu une fois qui a dit, mais vous savez, la peau de l'homme vient de la terre. Et avec la même terre, pourquoi est-ce que Dieu fait que les couleurs de peau soient différentes? Mais simplement parce que Dieu est un lieu de diversité. De la même terre, il a réussi à sortir des plantes de couleur rouge, rose, blanche, violette, etc. De la même terre, les plantes ont des couleurs différentes parce que Dieu aime la diversité. Que quelqu'un dise Amen. Alors, je ne sais pas d'où venait Adam, je ne sais pas quelle couleur de peau il avait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était scientifiquement démontré en physique que toutes les couleurs sont dans le noir. Et que du noir sortent toutes les couleurs. Bon, je m'arrête là, si là. Alors, depuis que j'ai compris ça, je me regarde dans la glace, je fais.
Ouais. Pas mal.
Je suis décomplexé de toutes ces histoires parce que j'ai compris la parole du royaume. Que quelqu'un dise Amen. On va dire, Ecclésiaste chapitre 10. Alors, nous allons ouvrir la constitution de notre gouvernement qui s'appelle le royaume des cieux. Et vous allez ouvrir avec moi au livre d'Ecclésiaste, article numéro 10, alinéa 3 à 5. Je vous le lis comme on lit une constitution. Ecclésiaste chapitre 10, verset 3 à verset 5 à 7. Je vous le lis. Il est un mal, que quelqu'un dise un mal. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ah, mon Dieu. Il y a deux mots qui m'ont interpellé ici. Le premier, au verset 5, c'est « Il est un mal ». Ce n'est pas bien. Que quelqu'un dise « C'est mal ». Que la folie occupe des postes élevés, c'est mal. Et au verset 6, il dit... Et non, ensuite, au verset 5, il dit « Une erreur ». C'est une erreur. Que quelqu'un dise « C'est une erreur ». Revenons le juste. La folie occupe des postes élevés. Des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. Que s'est-il passé? Est-ce que ce n'est pas l'état de l'Église, ça? Que quelqu'un dise, il faut que ça change. Il faut que ça change. Que quelqu'un dise, je suis un roi. Ou une femme, elle dit, je suis une reine. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu n'es pas là pour faire de la figuration. Tu as été créé avec un but précis. Tu n'es pas un accident. Et Dieu veut que nous comprenions cette mentalité du royaume. Alors, je vais commencer mon message d'aujourd'hui en vous emmenant dans Matthieu chapitre 9 au verset 35. Matthieu chapitre 9 au verset 35. Je vais vous le lire. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, je vais vous le lire. Jésus dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande. D'autres versions disent, la moisson est pleine. D'autres versions disent encore, la moisson est abondante, ou encore, elle est mûre. Que quelqu'un dise mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître, ou encore le propriétaire de la moisson, à d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Écoutez-moi bien. Jésus dit ici, la moisson, il a dit ça il y a 2000 ans. La moisson est pleine, elle est grande, elle est mûre. Dites à votre voisin, elle est mûre. De quelle moisson parle-t-il? Des âmes. Vous me comprenez? Jésus dit, la moisson est mûre. Les gens sont prêts. Ils attendent cela depuis longtemps. Il faut juste aller récolter. La moisson est pleine. Il n'a pas dit, vous allez. Il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Vous savez pourquoi? Parce que pour chaque type de moisson, il faut des compétences spécifiques. Vous ne pouvez pas, même pour pêcher le poisson, il y a différents types de poissons, et pour chaque catégorie de poisson, il faut des gens avec une certaine compétence, expertise pour pouvoir pêcher tel type de poisson. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la Martinique, c'est que la France, c'est que la francophonie est prête depuis plus de 2000 ans et que les âmes attendent d'être moissonnées par le Seigneur parce qu'il a dit la moisson est prête, elle est mûre, elle est grande, elle est abondante, elle est là, elle attend juste à être récoltée. Mais pour récolter, il ne faut pas leur apporter le message de la religion. Il faut leur apporter le message du royaume de Dieu. Parce que c'est ça leur attente, c'est ça leur espérance. Les gens en ont marre d'être frustrés, comprimés, opprimés, déprimés. Certains se suppriment. Les gens en ont assez. Le monde est malade et le monde attend qu'on vienne leur annoncer un message d'espérance, un message de délivrance. Lorsque Dieu règne, cet esprit s'en va. Lorsque Dieu règne, ta mentalité est renouvelée. Lorsque Dieu règne, ton potentiel est déployé. Lorsque Dieu règne, ton foyer est un paradis quotidien sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. Lorsque Dieu règne, tout ce à quoi tu aspires, tu l'obtiens. Mais Dieu dit la condition numéro un pour vivre mon règne, c'est change ta mentalité. Reprends-toi, change là-dedans. Ton problème, c'est ta mentalité. Je ne peux pas changer ta vie si je ne change pas la perception que tu as de toi-même. Parce que vous avez oublié le but. Vous êtes rentré dans la religiosité. Ah, je vais à l'église. Ah, je fais ça. Ah, je vais chanter. Dieu dit, mais tu chantes, tu joues, tu fais ci. Est-ce que tu exprimes ma nature? Ce qui compte, c'est pas de chanter. Ce qui compte, c'est de manifester ma nature. Certaines personnes pensent que l'adoration, c'est mettre la musique calme et douce et puis lever les mains vers le ciel. Non, l'adoration, c'est un mode de vie. Alors Dieu veut que ses enfants soient des citoyens du royaume des cieux. C'est comme ça que la Bible m'a identifié. Vous êtes des citoyens du royaume des cieux. Vous êtes des vrais extraterrestres. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'en haut. Que quelqu'un dise Amen. Alors comment entre-temps, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit hier, comment entre-temps dans le royaume de Dieu? Jean 3, verset 3, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous le connaissons tous par cœur, Amen. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas si évident que ça. Ce que ce passage dit, c'est que le passeport. Parce que voyez-vous, quand vous êtes citoyen d'un pays, il vous faut un passeport. Le passeport d'entrée dans mon pays, dont je suis fier de parler partout où je vais. Mon pays, le passeport d'entrée dans mon pays, c'est revenir d'abord en Éden. C'est la nouvelle naissance. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez réussir dans un pays sans être citoyen de ce pays. C'est vrai ou c'est pas vrai? On m'a dit qu'ici, il y a beaucoup de Syriens qui font des affaires. Mais vous pouvez réussir dans un pays sans avoir le passeport de ce pays. Tu peux réussir en appliquant les lois du royaume de Dieu. Parce que les lois du royaume de Dieu sont en vigueur ici en France aussi. Sur toute la terre, les lois agissent. Est-ce que vous me suivez? Mais il n'empêche que si tu n'as pas le passeport, tu iras droit en enfer. On ne devient pas citoyen du royaume des cieux en allant à l'église. On devient citoyen du royaume des cieux en revenant en Éden. Que quelqu'un dise Amen. On peut côtoyer les Français sans être soi-même Français. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut côtoyer les citoyens du royaume des cieux sans être citoyen du royaume des cieux. Il y a quelqu'un qui m'entend ici qui n'est pas dans le royaume des cieux. mais qui est à l'église tous les jours. Pas toi, pas toi. Peut-être le voisin. On peut même parler français sans avoir le passeport français. On peut parler le langage de mon gouvernement sans être de mon pays. Alors vous savez, on connaît les gens qui parlent le langage du royaume des cieux. Alléluia, amen, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Oh frère, soeur, oh, ça c'est le langage de mon pays. Ça ne fait pas de toi un citoyen de mon pays. Que quelqu'un dise amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Dans mon pays, il n'y a pas de sans-papiers. Il n'y a pas de clandestins. Parce que les anges veillent. On ne peut pas rentrer par des frontières. Non, ce n'est pas possible. La Bible dit qu'il faut avoir le passeport. Que quelqu'un dise amen. Il n'y a pas d'agent secret, il n'y a pas de sans-papiers. Et tous les citoyens du royaume des cieux doivent prêter publiquement allégeance au roi en se faisant passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'allégeance et d'appartenance. Lorsque je passe par les eaux du baptême, je suis en train de confirmer au monde entier et je suis en train de prêter allégeance à sa majesté, le roi de gloire. Dans la Bible, vous verrez que Dieu est présenté comme un roi. Il n'est pas présenté comme étant le chef d'un clan religieux qui s'appelle le christianisme. Non. Dieu est un roi. Que quelqu'un dise Dieu est un roi. Alors que se passe-t-il? Lorsque vous devenez citoyen du royaume des cieux, vous devenez donc, vous avez donc la nationalité. Alors votre statut est particulier. Parce que spirituellement, dans le ciel, vous êtes fils de Dieu. C'est-à-dire descendant de Dieu. Mais comme vous êtes sur la terre, vous êtes un envoyé. Ce qu'on appelle un ambassadeur. 2 Corinthiens 5, verset 20. Que quelqu'un dise amen. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens sont frustrés. Pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens vivent dans l'oppression, la compression, la dépression et la suppression. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Vous allez comprendre d'ici demain pourquoi tous les problèmes que nous avons viennent d'où. Je vous expliquerai. Parce que nous n'avons pas compris ce que ça veut dire être un ambassadeur. Que quelqu'un dise amen. Amen. Tu deviens ambassadeur du royaume des cieux. La Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu réconcilie, Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu t'établit ambassadeur du royaume des cieux pour aller dire aux gens, Dieu n'est plus en colère après toi. Tu peux revenir dans la maison. Tu peux revenir en Éden. Et ça veut dire qu'en fait, je suis un fonctionnaire, là, celui que vous voyez devant vous, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui est associé au ministère de la réconciliation. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis un ambassadeur. Alors, je vais développer avec vous les caractéristiques d'un ambassadeur. Vous êtes prêts? Le défi d'un ambassadeur, c'est de se conformer aux lois en vigueur dans son pays d'origine et pas d'acquérir les attitudes et les habitudes du pays dans lequel il réside. Et c'est là la source du problème que nous avons. Je vous expliquerai le verset. Un jour, le Seigneur a ouvert mon esprit. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Je n'avais jamais compris ce passage. Jusqu'au jour où Dieu a ouvert mon esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Un ambassadeur, l'ambassadeur de France en Grande-Bretagne, doit vivre selon les lois en vigueur en France. Et sa maison dans laquelle il habite devient un territoire diplomatique. Vous comprenez? Si la reine Victoria, la reine, non, la reine Elisabeth, qu'est-ce que je raconte Victoria, mon Dieu? Si la reine Elisabeth choisissait de quitter Buckingham Palace pour aller habiter dans un studio en plein cœur de Londres, le studio deviendrait le palais royal. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait de mon domicile le palais royal, ce n'est pas le marbre, c'est le fait que le roi y habite. Ma maison, là où j'habite, c'est le palais royal. La garde royale est là, déployée tous les jours au garde à vous. Tu ne peux pas rentrer comme tu veux. Aucun démon, aucun esprit de sorcellerie ne peut passer. Parce que la garde royale veille, la Bible dit, que l'ange de l'Éternel campe contre ceux qui le craignent. Et il les arrache à tout danger. Alléluia. Ma maison, même si tu as une petite maison, même si elle n'est pas propre, sache une chose, ce n'est pas la maison qui te définit, c'est toi qui définis la maison.
Amen.
Que quelqu'un dise encore amen.
Amen.
Alors même si c'est petit, c'est pas propre, c'est pas un problème. Le fait que j'y habite fait que, comme le roi y habite, parce que je ne suis plus un prince, je suis maintenant un roi, parce que je ne suis plus dans le ciel. Au ciel, je suis un prince, sur la terre, je suis un roi, et je fais ce que fait mon papa au ciel. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Mais vous remarquerez que je vous ai dit hier, kingdom, 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 royaume, kingdom, ça veut dire le domaine du roi. Si la Bible dit que tu es un roi, ça veut dire, oh mon Dieu, qu'il y a un domaine dans lequel tu dois exercer l'influence. Et si tu veux connaître ce domaine, il se trouve dans un domaine où Dieu t'a donné un talent naturel, quelque chose que tu fais facilement. Si tu le développes, tu vas influencer ton environnement par le témoignage. Oh mon Dieu. Des fois même c'est compliqué quand j'en parle. C'est tellement profond moi-même. Tu dois avoir un domaine dans lequel tu règnes. Que quelqu'un dise amen. Il doit y avoir un domaine. Parce qu'un roi a un domaine. Un domaine, ce n'est pas une zone géographique. Un domaine, c'est un concept. Il y a un domaine dans lequel je dois exceller et resplendir la gloire de Dieu. Et lorsque je resplendis la gloire de Dieu, vous savez, Matthieu 24, verset 14 dit, je reviens après sur Matthieu 24, verset 14 dit que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée à toutes les. Et puis viendra la fin. Il ne dit pas la bonne nouvelle, allez, non, il dit la bonne nouvelle du royaume, pas n'importe quelle nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Tant que la bonne nouvelle du royaume n'est pas annoncée, la fin ne viendra pas encore. Arrêtez de prier, arrêtez de dire Jésus revient en saint, il ne revient pas demain. Alors planifie ma vie, planifie ta vie. Quelqu'un m'a, avec moi, hier, vous savez, parce que hier, quand j'étais ignorant là, je disais, de toute façon, ça ne sert à rien d'acheter des maisons, ça ne sert à rien de construire, de planifier pour le futur, parce que de toutes les manières, Jésus revient bientôt. Tout ça, c'est du matérialisme, c'est éphémère. Oui, mais si Jésus ne revient pas, tu fais quoi? Et que ton bailleur te fout dehors, tu fais quoi? Quelqu'un m'a dit, sois sage, planifie comme si Jésus revenait dans 30 ans, comporte-toi comme s'il revenait aujourd'hui. Ça, c'est la sagesse. Parce que la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser? Est-ce que tu vas laisser les enfants dans des dettes, dans des problèmes? Il faut commencer à planifier. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Matthieu 24, verset 14 dit, cet évangile, que quelqu'un dit, cet évangile. Pas n'importe lequel, l'évangile du sera annoncé à toutes les nations. Puis viendra la fin. Le mot nation en grec, c'est le mot ethnos. Que quelqu'un dise ethnos. C'est de là que vient ethnie. Ethnos. Que veut dire ethnos? Ethnos veut dire communauté d'individus qui parlent le même langage. Et nous, nous croyons que les ethnos, ce sont les Martiniquais, les Guadeloupéens, c'est quoi, les Béquets, c'est ça? Et tout ça là. Ça, c'est pas faux, mais c'est incomplet. Ethnos égale communauté d'individus parlant le même langage. Et vous remarquerez que Jésus a annoncé un seul message. Tout ce qu'il a annoncé, c'était le royaume de Dieu. Maintenant, si vous lisez Matthieu chapitre 13, vous allez voir que Jésus a annoncé ce même message, mais à différents types de ethnos. Matthieu 13, verset 24, il parlait aux agriculteurs. Matthieu 13, verset 31, il parlait aux personnes qui font la cuisine. Il dit, le royaume de Dieu est comme un grain qu'une femme a pris et a mis dans la pâte. Est-ce que vous me suivez? Matthieu 13, 45, il parle aux commerçants. Le même message, le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. C'est le même message que Jésus a annoncé à différents types de ethnos. Ethnos, c'est quoi? Communauté d'individus parlant le même langage. Vous prenez les médecins. Le milieu de la médecine, c'est un monde à part entière avec son langage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand vous n'êtes pas médecin, vous avez du mal à comprendre le langage des médecins. Vous prenez le monde des experts comptables. Quand vous n'êtes pas expert comptable, vous avez du mal à comprendre ce que disent les experts comptables. C'est une communauté d'individus qui parlent la même langue. Que quelqu'un dise amen. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'appelle à exercer le règne, l'influence. Le domaine dans lequel, pas tu fais le boulot, Mais il y a un domaine dans lequel tu dois travailler et exercer une influence. Ça veut dire influencer ton environnement. Comme le sel de la terre, il y a un domaine dans lequel tu dois influencer ton environnement afin de leur donner envie de venir dans ton pays qui s'appelle le royaume de Dieu. Je reviens sur ce que je disais. Un ambassadeur. Caractéristique de l'ambassadeur. Numéro 1. Un ambassadeur n'est jamais voté par le peuple. Il est directement sélectionné, choisi par le roi. Jésus dit dans Jean chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez établi, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » La bonne nouvelle, c'est que s'il fallait voter pour toi, personne ne t'aurait choisi. Parce que les hommes sont impitoyables. On regarde à ton passé, à tes échecs, divorce, avortement, échec scolaire, et puis on dit, lui, non. Mais si c'était des intellectuels qui devait inventer le royaume de Dieu, il serait allé à Harvard, à HEC, à Sciences Po et à Polytechnique prendre les marges de promo. Mais vois-tu, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas eu besoin de prendre des marges de promo. La Bible dit qu'il m'a choisi. Alors, que quelqu'un dise, il m'a choisi. Même si tu ne m'aimes pas, il m'a choisi. Tu ne me supportes pas, il m'a
choisi.
J'ai été sélectionné. Et il y a des gens, ils sont fous, ils ne comprennent pas le fait que comment quelqu'un comme ça, Dieu a pu pardonner, comment est-ce que maintenant il peut prêcher l'évangile, comment est-ce que maintenant il peut aimer Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas te dire pourquoi, mais je sais seulement qu'il m'a choisi. Alléluia. Il m'a choisi. Et laissez-moi vous dire une chose, si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a accepté, si tu me rejettes, ce n'est pas un problème. Alors je sais qu'il y a des gens qui t'ont rejeté, ils t'ont fait du mal, laisse tomber. Si quelqu'un t'a rejeté, laisse-le. Tu sais, vous savez, tout le monde n'a pas le sens du discernement. Tout le monde n'est pas forcément intelligent. Tout le monde n'est pas forcément clairvoyant. Il y en a qui ne savent pas voir la grandeur lorsqu'elle n'est pas manifestée. Dieu sait voir la grandeur même lorsqu'elle n'est pas manifestée. Dieu regarde à ton potentiel et par ce que tu es. Il a vu Simon, qui veut dire inconsistant, instable, chancelant. Il lui dit, tu es Pierre, tu es un roc solide. Mais regardez. Alors, qu'importe ceux qui t'ont rejeté, laisse tomber, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas le don du discernement. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Ça, c'est quand ta mentalité commence à changer. Arrête de pleurnicher. Ah, ma mère, ça. Ah, il m'a rejeté. Ah, il est parti. Mon mari est parti. Laisse-le. Relève la tête. Avance. Dis à ton voisin, avance. Yes. Moi, j'ai compris, j'en parle dans mon livre, j'ai compris le remède du rejet. Quand Jésus a dit, quand vous serez rejeté, secouez la poussière de vos pieds, continuez, avancez. On te rejette. Mais vous savez, mais tout le monde ne vous acceptera pas. De toute manière, le jour où vous décidez d'être un bâtisseur, les médiocres vous combattront. Le jour où vous décidez de rêver, les paresseux vont vous combattre. Qu'est-ce que tu veux montrer? Dans la famille, tout le monde a échoué. Tout le monde a divorcé et toi tu voudrais réussir. Ça c'est ce qu'on appelle la mentalité de crabe. Vous connaissez la mentalité de crabe, non? Vous mettez les crabes dans un panier, ne mettez pas de couvert, personne ne sortira. Dès qu'il y en a un qui veut monter, les pinces des autres le rattrapent. Reste avec nous. Oh, que quelqu'un dise amen. Je ne resterai pas avec toi dans les profondeurs de la médiocrité, de la bassesse, de la pitoiement. J'ai décidé que ma vie comptera et créera un impact. J'ai compris que je ne suis pas là, je ne suis pas né par accident. Aime-moi, n'aime pas. C'est pas toi qui m'as sanctifié, c'est pas toi qui m'as justifié, c'est pas toi qui m'as racheté, c'est pas toi qui m'as réconcilié, c'est lui. Laisse-moi tranquille. Vous devez être libéré de la peur des critiques. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Que quelqu'un dise, je suis un ambassadeur. Mon devoir, c'est de plaire au roi. Voilà. Deuxième point. Un ambassadeur représente son pays à l'étranger. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Même si tu es sur la terre, le jour où tu as reçu Christ, la Bible dit que spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes. Physiquement, tu es un ambassadeur sur la terre. Ton statut a changé. Ton statut a changé. Maintenant, un ambassadeur représente son pays à l'étranger. Donc, je suis ici sur la terre, en Martinique aujourd'hui, pour représenter les intérêts de mon gouvernement. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Troisièmement, le rôle d'un ambassadeur, c'est d'influencer le territoire qui lui a été confié, l'environnement dans lequel il se trouve. Il doit l'influencer, il doit donner aux gens. Le rôle de l'ambassadeur des États-Unis en France, c'est d'influencer les Français afin de leur donner envie d'aller aux États-Unis. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Mais c'est ça le rôle de l'ambassadeur. Et pour influencer, un ambassadeur utilise l'art de la diplomatie. Oh, que quelqu'un dise la diplomatie. Alors nous les chrétiens, quelqu'un dise diplomatie. Alors là les chrétiens, oh là là. La diplomatie, c'est l'art d'influencer sans heurter, sans causer des incidents. Il y a des chrétiens, ils vont, quoi? Tu bois encore l'alcool? Ah, pécheur! Tu vas aller en enfer? Mais non, tu l'as tué, tu l'as refroidi, tu l'as offensé. Et il y a beaucoup de gens que nous avons refroidis par notre mauvais témoignage. Parce qu'on n'a pas l'art de la diplomatie. Des fois, les SS, les super spirituels, font beaucoup de dégâts. Un ambassadeur, il utilise l'art de l'influence. Il est comme le sel de la terre. Je dis, le royaume de Dieu, c'est comme la levure que vous mettez dans la pâte. Mais quand la levure vient dans la pâte, elle ne fait pas du bruit en disant je suis la levure. Non. Elle arrive dans la pâte, elle s'immerge dedans. Et soudainement, tout à coup, brusquement, sans avertir, toute la pâte augmente. L'environnement a été transformé par ma présence. Parce que la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Quand tu vas quelque part, que disent les gens? Est-ce qu'ils disent, ah, il est intolérant, il est insupportable? Non, il faut qu'ils disent, mais cette personne, quand elle est là, quelque chose se passe. Dans sa présence, on ne sait pas, mais quand elle est là, on se sent mieux. Je suis venu auprès de toi, j'étais down, maintenant je suis up. J'étais abattu, je suis relevé. J'étais désespéré, je suis rempli d'espoir. J'étais découragé, je suis encouragé. J'étais malade, je me sens vivifié. J'étais perdu, je suis retrouvé. À cause de la présence d'un citoyen du royaume des cieux. Point numéro 4. Un ambassadeur ne donne jamais son opinion. Un ambassadeur ne donne uniquement que la position de son gouvernement. Ah, oh. Je répète. Un ambassadeur ne donne jamais sa position, son opinion. Pourquoi? Parce que le jour où un ambassadeur commence à donner son opinion, il risque de se faire rappeler par son gouvernement. Il n'a pas le droit. Tout ce qu'il va dire, c'est ce que dit la constitution de son pays ou la position de son pays. Vous avez tous entendu parler du débat de l'attitude de Dominique de Villepin aux Nations Unies. Vous avez tous entendu parler de ça. Le gouvernement français déclare. Tout le monde était contre lui. Il dit le gouvernement français déclare. On lui demande, monsieur, que pensez-vous de l'homosexualité? Qu'est-ce que vous répondez? Je crois que le gouvernement dit direct. Je ne t'ai pas dit de donner ton opinion. Mais oui, mais les temps ont changé. Les temps n'ont pas changé. Les cieux et la terre passeront. Sa parole ne passera pas. Que quelqu'un dise amen. Alors, un ambassadeur fait preuve de diplomatie, mais il donne la position de son gouvernement. Que pensez-vous de l'homosexualité? Moi, j'ai ma réponse. Vous voulez la connaître? Vous voulez que je vous la donne? Que pensez-vous de l'homosexualité, M. Castanou? Je suis là pour exprimer formellement l'opinion de mon gouvernement. Mon gouvernement déclare qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève et il ne créa pas Adam et Steve. Jusque-là, je n'ai rien dit, je n'ai fait que donner la position de mon gouvernement. Que quelqu'un dise amen. Je n'ai choqué personne, je n'ai pas fait d'allusion sale. Moi, je dis simplement, c'est Adam et Ève. C'était facile. Point numéro 6, la préoccupation majeure d'un ambassadeur est de remplir sa mission. Le jour où un ambassadeur se détourne de sa mission pour se focaliser sur ses passions, ce jour-là, il va avoir de sérieux problèmes. Et laissez-moi vous dire une chose, il y a beaucoup d'ambassadeurs de Christ qui ont déjà été virés par leur gouvernement, ils ne le savent pas encore. C'est pour ça que Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom et diront, Seigneur, Seigneur, comment ça? On n'a pas dit ça en ton nom? On n'a pas chassé les démons? On n'a pas guéri les malades? Il dira, je ne vous ai pas connu, vous avez été viré depuis le début. Vous êtes allé donner vos opinions, au lieu de donner la position de votre gouvernement. Dégagez, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Et ce jour, ça sera grave. Un ambassadeur donne la position de son gouvernement. Point numéro 7, je ne sais pas si c'est 6 ou 7. Un ambassadeur ne devient jamais citoyen de son pays de résidence. Parce qu'un ambassadeur tient à conserver les statuts, les privilèges qui sont liés à sa fonction. Que quelqu'un dise amen. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si là, quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je ne suis pas là pour me faire contaminer par les gens de ce monde, je suis là pour influencer. Que quelqu'un dise, je suis là pour influencer. Alléluia. Un ambassadeur ne devient jamais citoyen. Je n'ai pas envie d'avoir la nationalité terrestre. Point numéro 8. Le statut économique et financier d'un ambassadeur ne dépend jamais des ressources économiques du pays dans lequel il se trouve. Ah, alors là, vous allez me dire, il y a un vrai problème. Je répète, le statut économique, le statut, le train de vie de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso ne dépend pas de la situation économique du Burkina Faso. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Il dépend, son statut économique dépend des États-Unis. Si son pays est riche, alors il est riche. Mais alors vous allez me dire, mais ça c'est la théorie. Parce que dans les faits, ce n'est pas mon cas. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'ambassadeur? Point numéro 9. Un ambassadeur paye toujours les impôts dans son pays d'origine. J'ai parlé avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le deuxième. Comment on appelle ça? Le deuxième secrétaire. Et je lui ai demandé, où est-ce que tu payes les impôts? Il m'a dit, je paye les impôts en Côte d'Ivoire. Demandez à n'importe quel ambassadeur, il ne paye pas les impôts dans le pays de résidence. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord entre la Côte d'Ivoire et la France qui fait en sorte que la personne ambassadeur qui travaille, le diplomate qui est en France, n'est pas à payer les impôts deux fois. Mais dans le cas du royaume des cieux, il n'y a pas d'accord. La Bible dit qu'il y a inimitié entre les royaumes de ce monde et le royaume de Dieu. Vous me comprenez? Ça veut dire que je dois payer les impôts dans les cieux, je dois aussi payer sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ne paient pas les impôts de leur pays. Et le jour où ils ont des problèmes financiers, ils osent quand même demander, « Seigneur, aide-moi !» Dieu dit, contacte le ministère de l'économie. Regarde son compte là-bas. Est-ce qu'il paye les impôts? Est-ce qu'il donne la dîme? Minimum, c'est la dîme. Est-ce qu'il donne? Non. Il dit, alors, il n'y a pas d'argent pour toi. Le gouvernement ne peut pas subvenir à tes besoins. Voilà. Alors, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Littéralement, ça veut dire quoi? Cherchez premièrement à accomplir votre mission au service du royaume de Dieu. Et cherchez la justice, ça veut dire chercher à être agréable au roi. Et tout le reste vous sera donné. Ce que je vous dis, je le vis. Je cherche d'abord à accomplir ma mission d'ambassadeur. Que quelqu'un dise amen. Et Dieu dit, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Bon, là, vous allez me dire, je vous ai donné la théorie. Je vous ai donné la théorie. En pratique, comment fonctionne le royaume de Dieu? Parce que je vous ai dit que le royaume de Dieu, c'est l'influence d'un pays, d'une juridiction. J'utilise le mot pays pour expliquer quelque chose de spirituel. C'est l'influence d'une juridiction sur un territoire déterminé. Aujourd'hui, l'Amérique, je dirais le royaume d'Amérique, a influencé la terre entière. Pourtant, Washington est resté à Washington. Mais le monde entier parle anglais aujourd'hui, du moins une grande partie du monde. Pourquoi? Parce que l'Amérique a influencé. C'est un royaume terrestre. La Bible dit que le royaume de Dieu veut influencer toute la terre. Et pour ça, Dieu se sert des ambassadeurs. Voyez-vous, dans le royaume de Dieu, pour fonctionner, pour réussir, pour opérer dans la dimension du royaume de Dieu, il faut des clés. Que quelqu'un dise des clés. Que quelqu'un dise encore les clés. Si vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez pas réussir. Et dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, sur cette affirmation, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. je te donnerai les clés du royaume. Que quelqu'un dise les clés. Autrement dit, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Est-ce que vous me suivez? Oh, dis à ton voisin, suis-le. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Deux points. Quand vous voyez deux points, ça veut dire, j'explique. Ce que tu lis, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18, verset 18. Là, Jésus a parlé à Pierre. Et dans Matthieu 18, au verset 18, Jésus parle maintenant à tous ses disciples. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, littéralement, ça veut dire, tout ce que vous allez fermer, interdire, bloquer sur la terre, sera lié, fermé, interdit, bloqué dans les cieux. Dites à votre voisin, suis-le. Non mais suivez-moi, là c'est trop important. Suivez-moi, je vous en supplie. Je continue. Et tout ce que vous délirez, c'est-à-dire tout ce que vous allez ouvrir, autoriser, permettre sur la terre, sera ouvert, délié, autorisé dans les cieux. Est-ce que vous me suivez? Les clés représentent quoi? Un, le pouvoir de fermer et d'ouvrir, d'autoriser ou d'interdire. Deux, les clés représentent l'accès. Lorsque vous avez les clés, vous avez accès à tout ce qui est dans les cieux. Qui a les clés? Où est l'entrepôt? Au ciel. Est-ce que vous me suivez? Les clés sont dans nos mains. L'entrepôt est dans le ciel. Oh, mais je vous en supplie, suivez-moi. Troisièmement, les clés représentent le contrôle. Lorsque j'ai les clés, je ne suis plus obligé de subir parce que je peux aller et venir autant que je veux. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui ont les clés du royaume des cieux n'attendent plus les miracles. Ils les déclenchent. Ils les provoquent. Oh mon Dieu, vous n'avez pas compris, je répète. Quand vous avez les clés, vous contrôlez la situation. Vous contrôlez les circonstances. J'ai appris très vite que les miracles n'arrivent pas par hasard. Chaque fois que vous voyez une personne qui expérimente un miracle, pour vous, c'est un miracle. Mais vous pouvez être sûr qu'il a utilisé des clés que vous n'avez pas utilisées. Et qu'il a transporté dans une dimension autre que celle dans laquelle vous êtes. Que quelqu'un dise amen. Les clés, lorsque j'ai les clés, je ne suis plus une victime. Parce que je sais comment faire. Ah là là. Le jour où Dieu m'a révélé ça, j'étais un homme libre. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. C'est quoi les clés? Ce sont simplement des lois, des principes qui régissent tout dans les cieux et sur la terre. Que quelqu'un dise amen. Lorsque vous avez les clés, vous avez le pouvoir. Et nous avons des clés. Vous savez, quand on ne connaît pas les clés, moi j'ai vu des gens, vous savez, j'ai vu des gens. Allez, regardez. Un jour, ma voiture est tombée en panne. J'étais avec un frère, j'étais très charismatique. Vous savez, les chrétiens charismatiques sont très aimés. Ma voiture est tombée en panne. Et puis je suis arrivé. J'ai dit, non, ça c'est une attaque. Dans le nom de Jésus, j'ai imposé les mains sur le dos de ma voiture. Voiture, démarre, démarre au nom de Jésus. Le sang de Jésus. La voiture n'a jamais démarré. Pourquoi? Ce n'était pas la clé qu'il fallait utiliser pour faire démarrer la voiture. La clé, c'était aller changer la batterie, amener notre batterie, puis changer, puis c'est terminé. Mais quand vous n'avez pas les clés, quand vous avez, des fois vous faites semblant d'être spirituel, ah Seigneur, vous arrivez devant une voiture, imaginez vous arrivez devant une voiture, vous n'avez pas la bonne clé, vous arrivez devant la voiture et puis vous dites, portière, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, ah, ouvre-toi portière, ouvre-toi, ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça s'ouvre là-bas. C'est pas la clé. Dis à ton voisin, c'est pas la clé. Mais des fois on pense être spirituel. Dieu dit, mais il est insensé. Et combien de fois moi je vous parle, j'ai été insensé. Ma passion aujourd'hui, c'est de sonder toute la Bible pour découvrir les clés. Que quelqu'un dise amen. Parce que Dieu veut que ses enfants réussissent dans ce qu'ils font. Parce qu'il en va de la crédibilité de Dieu. Si tu échoues dans ta vie, Dieu ne peut pas dire, regardez ce que je suis capable de faire. Il y en a parmi nous, nous sommes des faux témoins. Dieu est bon. Ah oui, montre-nous où est la bonté de Dieu. Dieu guérit. Oui, il t'a guéri où? Dieu délivre. Il t'a délivré où? Dieu est toujours dépressif, dépressif. Toujours amer, rancœur, manque de pardon, apitoiement. Oh! Dieu restaure, il restaure quoi? Rien de trouver ton état. Oh, pas toi, ton voisin, pardon. Mais, toujours down, toujours. Vous comprenez? Il en va de la crédibilité de Dieu. Si Dieu ne me restaure pas, si Dieu ne me fait pas resplendir, il ne peut pas me démontrer, me montrer au monde en disant, voilà ce que je suis capable de faire. Dieu veut élever les standards de son peuple. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il a dit que le temps vient où les nations doivent voir vos bonnes œuvres et dire, gloire à Dieu. Mais quand viendra ce temps? Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise les clés. Bon, comme ce n'est pas beaucoup de temps, je vais vous donner quelques clés. Pasteur, je peux vous donner quelques clés? Non, moi, je demande la permission au pasteur. Vous n'êtes pas le pasteur. Vous savez, j'ai beaucoup de clés. Les clés pour faire réussir tout. Le mariage, ma vie personnelle, ma communion avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Ici, Jésus dit, dans le même passage, dans le même contexte, Pierre dit, Seigneur, si mon frère pêche, combien de fois vais-je lui pardonner? Ça sera jusqu'à 7 fois. Jésus répond, ça ne sera pas jusqu'à 7 fois, ça sera 77 fois, 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que Jésus veut de lui donner là? Il veut de lui donner une clé. Il est en train de lui dire que, Pierre, lorsque tu ne pardonnes pas, c'est toi qui as les clés, qui est en train de fermer le ciel, la terre. Tout ce que tu fermes, tu lis, tu bloques sur la terre est bloqué dans le ciel. C'est toi qui as bloqué. Tu as fermé par le manque de pardon, tu as fermé. Au ciel, tout est fermé. Rien ne sortira. Oh oh. Rien ne sortira. Tu ne pardonnes pas à ton frère, c'est pas Dieu. C'est toi qui as pris les clés et tu as fermé. Parce que tu as appliqué la loi du manque de pardon. Tu n'as pas appliqué la loi de la libération. Tu as fermé, le ciel est fermé et plus rien ne vient sur ta vie. Alors si tu veux ouvrir le ciel, pardonne. Et là, toi-même avec tes clés, tu ouvres. Ah, sur la terre, dans le ciel, c'est ouvert. Les provisions peuvent de nouveau être libérées. Que quelqu'un dise amen. Alors moi, je vais vous raconter des histoires qui m'ont fait rire. Quelqu'un, frère, un pasteur dans nos églises pentecôtistes, charismatiques, tic, tic, 40 jours de jeûne. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle financier. Qui a besoin d'un miracle financier? Alors, vous avez peur de lever la main? Non. Oui, alors tout le monde est prospère. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle financier. Et puis le gars, il prie. Au nom de Jésus, 40 jours de jeûne. Viens, dit frère. 40 jours de jeûne, ça va te fortifier. C'est super. Ça va te donner la foi. C'est super. Ça va te rendre sensible au Saint-Esprit. C'est super. Mais ce n'est pas la clé pour avoir le miracle financier. Parce que la terre te dit, donne-moi une semence. Alors l'agriculteur, il arrive sur le champ et puis il dit, banane, au nom de Jésus, sortez de la terre. La terre dit, mais s'il te plaît, chef, donne-moi des grains, tu n'as rien planté et tu veux moissonner. Tu as mis quoi? Au nom de Jésus, j'ai la foi. Demain, je vous lis, vous retardez les exaucements, mes prières. Je bloque les autorités, les principautés dans le deuxième ciel. Je vous arrête. Ok. Tu as dépouillé l'atmosphère. Super. Mais si tu n'as rien planté, rien ne sortira. Que quelqu'un dise amen. Parce que ce n'est pas la bonne clé. Tu veux qu'on t'aime, mais aime les autres. Personne ne m'aime. Je ne comprends pas. Mais ça ne changera pas. Si tu veux qu'on t'aime, tu dois aimer d'abord. Si tu veux moissonner, tu dois semer. C'est une clé. Que quelqu'un dise amen. Alors le pasteur était déçu quand je dis ça. Non, tu n'es pas un homme de foi. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il y a une histoire qui m'a troublé. J'ai écouté Mike Landon raconter une histoire vraie qu'il a expérimenté lui-même. Et il dit qu'il avait une église, il avait un grand domaine qu'il a voulu donner à une église de sa région. Est-ce que vous me suivez? Dites à votre voisin, suis-le. Il voulait donner à une église de sa région. Alors il a prié pendant plusieurs semaines pour dire, Seigneur, j'ai un domaine que je veux donner. Montre-moi l'église à laquelle je vais le donner. Alors il a prié, et puis aucune réponse de la part du Seigneur. Aucune réponse. Et puis un jour il a dit au Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je te demande de me donner, de m'indiquer à quelle église je vais faire cette offrande, et tu ne me donnes aucune réponse. Et Dieu lui a répondu, Mike, le problème que tu as, c'est que tu n'as aucune église qui est suffisamment semée en terre pour pouvoir récolter ce genre de bénédiction. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez jamais semé. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Il y a deux cas. Il y a les personnes qui sont ignorantes et qui périssent par manque de connaissances. Il y a le deuxième cas, ce sont les personnes qui connaissent la vérité, mais qui font semblant de ne pas la voir. Et là, Paul dit, ne vous y trompez pas. Vous trompez, tu n'auras personne. Chaque clé ouvre une porte déterminée. De la même manière, tu ne peux pas acheter avec une offrande, tu ne peux pas acheter la prière. Bon, ça c'est la religion, ça c'est pas de Dieu, c'est la religion. Ouais, je fais une offrande, priez pour moi, et puis écoute, prie pour toi-même d'abord pour commencer. Chacun doit avoir un bouclier. Moi, je dois me prier. Écoutez, pasteur, prie pour moi. Je dis, prie d'abord. Prie, je vais t'accompagner. Maintenant, mais il faut libérer les gens de l'assistanat, que quelqu'un dise amen. Les clés, la clé de la compensation, il n'y a pas d'effet sans cause. Que quelqu'un dise amen. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Dans le royaume de Dieu, tu dois apprendre, mon frère, ma soeur, à utiliser les bonnes clés. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il n'y a pas une seule clé, il y en a. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Donne-le. Sème-le. Et si les lois du royaume de Dieu étaient appliquées dans le monde, nous ne connaîtrions pas la pauvreté. Parce que voyez-vous, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas compliqué. Quand vous voulez recevoir, et c'est ce que Jésus a voulu faire avec le jeune homme riche. Il lui a dit, écoute, tu as beaucoup de richesses, à aujourd'hui tu n'en as pas besoin. Sème-le. Et constitue-toi un trésor dans le ciel. Il n'a pas dit un trésor pour le ciel. Il a dit un trésor dans le ciel. C'est différent que quelqu'un dise amen. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a pas de dévaluation, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de la dette, il n'y a rien. Tous tes placements sont sûrs. Et le jour où tu en as besoin, c'est débloqué. Que quelqu'un dise amen. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de foi et beaucoup d'assurance. Pas seulement parce que j'ai prié, mais parce que j'ai beaucoup semé. L'église où nous sommes à Paris, nous voulons acheter un bâtiment de 5000 mètres carrés. En 3 ans et demi d'existence, il n'y a aucune église à Paris qui a acheté un bâtiment de 5000 mètres carrés au bout de 3 ans. Mais je vais vous dire une chose, nous on va l'acheter. Et je ne sais pas où est l'argent, je vous assure, c'est un vrai challenge. On marche par la foi. Mais mon assurance vient de ce que je sais que Dieu ne peut pas te tromper. J'ai dit Seigneur, parce que nous en église, nous donnons. On donne à tous les gens qu'on reçoit. On donne et on donne abondamment. Et je sais que toutes ces semences ne peuvent pas être vaines. Elles ne peuvent pas être vaines. Quelqu'un a dit, je ne peux pas être pauvre parce que je sème tout le temps. Je dois moissonner. Ceci dit, laissez-moi vous dire une chose. Même quand vous semez et que vous moissonnez, ce n'est pas ça qui va faire de vous un millionnaire. Parce que là encore, il faut la mentalité. Parce que vous savez, le pauvre et le riche n'ont pas la même mentalité. Le pauvre n'a pas besoin d'argent. Mais un pauvre n'a pas besoin d'argent. Un pauvre a besoin de changer sa mentalité. Parce que la pauvreté, ce n'est pas ne pas avoir d'argent. La pauvreté, c'est une mentalité d'improductivité et d'incapacité à créer de la richesse. Oh, vous n'aimez pas ça? Ok. Un pauvre, quand vous lui donnez de l'argent, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que je peux acheter? Un riche, vous lui donnez de l'argent. La première question, c'est où est-ce que je peux investir? Vous donnez l'argent à un pauvre aujourd'hui, demain vous allez vouloir le tuer. Parce que demain il va encore venir, pendant, encore l'argent. Vous donnez, demain, le lendemain il revient, encore l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent que je te donne? Arrêtez de donner l'argent. Il faut enseigner. Il faut que sa mentalité change. Que quelqu'un dise amen. Bon, allez, j'arrête pour l'autre. Il y en a trop. Je vais te donner simplement 2 clés. Mais dans la Bible, il y a des clés pour tout. Alors ma passion aujourd'hui, c'est de parcourir la Bible pour découvrir quelles sont les clés. Il y a des clés pour la puissance spirituelle. Beaucoup d'entre nous, au jour de notre force et de notre vigueur, nous ne prenons pas le temps de constituer des provisions de puissance spirituelle. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu jeûnes, tu es en train de te constituer un trésor des ressources, des provisions. Parce que le temps viendra, mon frère, ma soeur, où tu n'auras pas la force de prier. N'attendez jamais le jour de la tentation pour commencer à prier pour dire, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ça sera trop tard. Tu dois, tous les jours, constituer des stocks. Et un jour viendra où ce que tu as amassé dans le ciel sera libéré pour te secourir au temps de la détresse. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour la puissance de Dieu. Certaines personnes ne prient jamais. Elles comptent toujours sur les autres pour prier pour elles. Et lorsqu'au jour de la tentation, elles tombent, elles disent, ah, je ne comprends pas. J'étais là, et puis, le frère est venu, et puis, nous sommes tombés. Genre, c'est pas ma faute. J'y peux rien. Moi, il y en a, si j'étais Dieu, il y en a que j'allais lapider moi-même. Non mais rassurez-vous, je suis rempli de miséricorde et d'amour, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je finis en vous donnant deux clés, je m'arrête là. Il y a dans la Bible des clés spéciales, des promesses que Dieu a faites pour les personnes qui aiment Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. La Bible dit que les secrets de l'Éternel sont réservés à ceux qui l'aiment. Psaume 25, verset 14. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées d'abord pour ceux qui l'aiment. Dans Jean 14, verset 21, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire que derrière l'amour de Dieu, il y a la promesse de la révélation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce si important d'avoir la révélation personnelle de Dieu? Vois-tu mon frère, ma soeur, tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne sauras jamais qui tu es. Je répète, tant que Dieu ne se révélera pas à toi, tu ne sauras jamais qui tu es. Et tant que tu ne sais pas qui tu es, tu seras un vagabond, une vagabonde, qui sera déplacée à gauche, à droite, selon les opinions des gens. Quelqu'un te dit, tu es bête, oh, je suis bête. Quelqu'un te dit, tu es intelligent, oh, je suis intelligent. Quelqu'un te dit, tu es stupide, oh, je suis stupide. Tu ne sais pas qui tu es. Mais pour savoir qui tu as besoin d'une révélation. Lorsque j'aime Dieu, lorsque je fais de Dieu ma passion, Dieu se révèle à moi. Et lorsque Dieu se révèle à moi, comme il s'est révélé à Moïse, la première des choses qu'il me dit, c'est qui je suis moi-même. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse avait une verge dans la main. Il a utilisé pendant 40 ans pour pêtre le troupeau tous les jours. Et le jour où Dieu se révèle à lui, Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Pharaon dit, Moïse dit, ah non, non, je ne peux pas, moi je ne suis pas capable, tu sais, moi je suis bête, je bégaye. Dis à quelqu'un d'autre. Dieu dit, c'est toi, vas-y. Et Dieu, quand Moïse avait peur, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai une verge. Il dit, jette-la par terre. Il jette, ça devient un serpent. Il reprend, ça devient un bâton. Qu'est-ce que Dieu lui montrait? Moïse avait dans la main quelque chose. Parce que dans la Bible, la verge, c'est le symbole de la puissance. Il avait une puissance inouïe à l'intérieur de lui depuis 40 ans qu'il n'avait jamais utilisée. Parce qu'il n'avait jamais rencontré Dieu cœur à cœur. La révélation. Que quelqu'un dise amen. Regardez, prenez l'exemple de Gédéon, un trouillard, un lâche. La Bible dit que il appartenait à la dernière des familles d'Israël. Et dans la dernière des familles, la dernière des tribus. Et dans la dernière des tribus, sa famille était la plus médiocre des familles. Et dans cette médiocre famille, il était le plus médiocre de tous. Et Gédéon était un lâche, un trouillard. Et le jour où Dieu vient le visiter, Dieu vient se révéler à lui, Dieu parle à un lâche, à un trouillard, à un gars qui a peur. Dieu lui dit, salut à toi, vaillant héros. D'autres versions disent, puissant guerrier. Je suis sûr que Gédéon, ce jour-là, il a dû tourner la tête, il parle à qui lui. Moi, tu dis, oui, toi, va avec la force que tu as. Délivre Madian. Délivre mon peuple de Madian. Qui, moi? Oui, toi. Dieu a vu beaucoup plus que ce que les autres voyaient. Mais ça vient par la révélation. Il y a plus, je vous ai parlé tout à l'heure de Simon Pierre, c'est pareil. Regardez l'exemple de Jacob, voleur, menteur, trompeur, supplanteur. Toute sa vie, on l'appelait comme ça. Et à force de l'appeler comme ça, il a fini effectivement par se comporter comme ça. Mais le jour où Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, tu es un vainqueur. Tu t'appelles Israël, tu n'es pas Jacob, tu n'es pas un voleur, tu es un vainqueur. Relève la tête. Que quelqu'un dise amen. L'amour de Dieu vous conduit à la révélation. La révélation vous conduit à l'identification. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que quelqu'un dise amen. Dans la révélation, Jésus lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Il s'appelait Simon. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, Jésus lui parle, il lui dit, tu es Pierre. La révélation, que quelqu'un dise amen. La révélation vous conduit à l'identification. L'identification vous conduit à l'autorité. Parce qu'il dit, je te donne le pouvoir de fermer et d'ouvrir sur la terre. Si vous n'avez pas la révélation de Dieu, ce que je vous dis ne vous servira à rien. La révélation, c'est personnel. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Tu dois aimer Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et plus tu l'aimeras, plus il se révélera à toi. Et plus il se révélera à toi, plus Dieu va modifier la photographie que tu as de toi-même. Et le jour où cette photo que tu as de toi-même commence à changer, mon frère, ma soeur, plus personne ne te stoppera. Les hommes mettront des limitations, ils l'ont toujours fait. Ces limitations ne tiendront plus devant toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Parce que tu es destiné à vaincre. C'est écrit sur ton front, destiné à réussir. Que quelqu'un dise amen. Ma prière, c'est que tu comprennes et que je comprenne cette mentalité du royaume. Mentalité de conquête. Comprends que tu es un ambassadeur. Un ambassadeur se focalise sur sa mission et pas sur ses passions. Un ambassadeur décide d'accomplir la mission, d'abord de découvrir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Parce que chacun de nous a un but unique sur la terre. Tu n'es pas la photocopie de quelqu'un d'autre. Arrête de vouloir imiter les autres. Tu ne ressembles à personne d'autre. Même le poil de ton cheveu permet de démontrer que tu es unique. Arrête de te comparer. La comparaison produit la jalousie. Moi, je me compare à personne. Que quelqu'un dise amen. Ne te compare jamais aux autres. Tu es unique, tu es spécial. Que quelqu'un dise je suis spécial. Demain, nous finirons en apothéose. Il y a plusieurs principes. Si Dieu me permet, Dieu m'accorde la grâce de revenir, je partagerai avec vous beaucoup de clés qui permettent aux citoyens du royaume des cieux, ici-bas, sur terre, de commencer à faire la différence dans leur environnement. Dieu nous appelle à resplendir. Dieu dit que nous sommes comme une ville perchée sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Ma prière, c'est que vous compreniez qu'il faut que ça commence à changer à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui dit « Maintenant, ça suffit ». Il faut que ça change. Il faut reprogrammer la mentalité. Et si tu reprogrammes ta mentalité, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est fini. Personne ne te stoppera. Je n'ai pas dit que tout sera simple, non. Mais personne ne te stoppera. Tu prendras ton envol comme les aigles et tu monteras vers les sommets. Que quelqu'un dise « Amen ». Alors, nous allons incliner la tête. Que quelqu'un élève la voix simplement dans son coin et dise « Seigneur, renouvelle véritablement mon intelligence. Accorde-moi la grâce de comprendre, Seigneur.